BFM Business présente les experts de l'IMO. Marie-Cœur de Roy.
Et il est midi sur BFM Business, l'heure des experts de l'IMO. Mais avant cela, un rappel des principaux titres de l'actualité. La colère agricole qui est toujours à la une. Emmanuel Macron qui réaffirme ce midi à Bruxelles l'opposition de la France à la signature du traité avec le Mercosur. Je veux dire à nos agriculteurs qui manifestent la clarté de la position de la France depuis le début. Sur le Mercosur, nous considérons que le compte n'y est pas et que cet accord ne peut pas être signé. Voilà ce qu'il dit. La France tente de réunir une minorité de blocage en s'appuyant notamment sur la Pologne, l'Italie, l'Autriche ou encore la Hongrie. Objectif, empêcher la présidente de la Commission européenne qui se rend samedi au Brésil de signer l'accord de libre-échange. En France, le gouvernement se prépare déjà à une loi spéciale face au risque de rejet du budget de l'État. L'entourage de Sébastien Lecornu indique ce midi que le Premier ministre a demandé à ce que les équipes se tiennent prêtes à saisir le Conseil d'État sur cette loi spéciale en cas d'échec de la commission mixte paritaire. La CMP réunissant députés et sénateurs est prévue demain autour du projet de loi de finances pour 2026. Enfin, en attendant, l'économie française semble bel et bien résister. L'INSEE indique que le climat des affaires s'est amélioré en décembre. Cet indice atteint son plus haut niveau depuis juin 2024 et s'approche de sa moyenne longue période. L'INSEE livrait également hier ses dernières prévisions de croissance. Il table sur 0,9% en 2025 et même 1% d'acquis de croissance pour l'été prochain. Allez, c'est l'heure des experts de l'IMO.
BFM Business présente les experts de l'IMO. Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours sur BFM Business à l'heure de votre déjeuner, une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements. Et comme tous les jours, ça démarre par cette séquence amis professionnels de ce secteur de l'immobilier au sens large, très large aujourd'hui, puisque vous allez voir, ce témoignage va nous parler fuite, panne de chaudière. Ben, si on n'attendait pas d'être dans l'urgence pour entretenir nos logements, on verra ça dans quelques instants. Ensuite, retour en plateau pour le débat du jour. Et c'est non sans une certaine émotion que je reçois notre duo de choc de la fiscalité. On a beaucoup de choses à se dire entre les différents projets de loi de finances de la sécurité sociale, les échéances de fin d'année. On va vous donner toutes les pistes pour ces prochains mois, voire ces prochains jours. On verra ça dans quelques instants. Mais d'abord, c'est l'heure du Pro de l'IMO.
Les experts de l'IMO. Le pro de l'IMO.
Et on est en ligne avec Alexander Gouchine. Je ne sais pas si je prononce bien votre nom, Alexander.
Oui, c'est parfait, bon. Oui, c'est parfait.
Génial. Oui. D'habitude, j'anticipe et là, je ne l'ai pas fait. Et voilà, je me retrouve un peu gênée. Donc, Alexander, vous êtes le président et fondateur de mesdépanneurs.fr. Et votre message, c'est de dire anticipons avant de nous retrouver avec des fuites d'eau, des pannes de chaudière. C'est à peu près ça l'idée.
C'est exactement ça, parce qu'effectivement, de l'autre côté, on constate vraiment l'augmentation est assez fulgurante, des fuites incastrées, des pannes liées à la vétusté des chauffages, enfin des chaudières. Et effectivement, enfin, on est à peu près sur plus de 20% d'intervention sur la recherche de fuites en 6 ans, notamment dans l'Ain, surtout dans l'Haussmannien, à Paris.
Mais vous arrivez à mesurer et à vous dire, en fait, ces cas-là, si on avait pris les devants, on n'en serait pas là, en fait. Comment vous arrivez à percevoir que c'était quelque chose qu'on aurait pu anticiper ou pas, en fait?
Parce que, en fait, vous voyez, quand on parle de la recherche de fuites, on parle des fuites qui sont pas visibles, on parle pas des simples joints qui commencent à fatiguer, etc. On parle bien des fuites qui sont incastrées quelque part dans les murs, dans les coffrages, etc. Et à chaque fois, en fait, la raison, c'est parce que le réseau est vraiment vieillissant. Parfois, on est sur les canalisations d'origine qui étaient pas prévues pour durer 200 ans. Donc, effectivement, enfin, on a besoin de remplacer ces installations-là. Et plus le temps passe, plus les fuites sont conséquentes et plus les dégâts sont importants.
Mais alors justement, Alexander, le coût de tout ça, parce qu'en fait, souvent, quand on fait pas les vérifications, le préventif, c'est aussi parce qu'on se dit, je vais pas encore devoir payer par prévention. Attendons, on verra bien, quoi. Est-ce que véritablement, ça me coûterait moins cher de faire de la prévention plutôt que de faire de la réparation ou pas?
Tout dépend qui paye la douloureuse à la fin. Donc, si vous comptez sur l'assurance, effectivement, qui va régler les dégâts, mais n'oubliez pas que c'est toujours vous qui payez la réparation, même si l'assurance couvre les dégâts que vous avez causés au tir, c'est toujours vous qui payez la réparation. Et oui, parfois, malheureusement, ça vous revient plus cher. Parce que, effectivement, on peut réparer encore une fois, mais on ne peut pas réparer à l'infini. Vous ne pouvez pas rouler dans une voiture qui a 100 ans. Vous voyez, parce qu'une fois on répare dans un endroit, ça tombe en panne dans un autre.
Non, et puis surtout, ce que vous disiez, c'est assez juste, parce que j'imagine que même les assurances, elles coûtent d'autant plus cher que ce type de sinistre se multiplie en final.
Exactement, et on voit, nous, on travaille beaucoup avec les assurances. Beaucoup d'assurances sont de plus en plus dans cette logique de prévention, de sensibiliser les usagers, les sociétaires ou les assurés sur les modes de prévention, parce qu'effectivement, à la fin, on voit que dans l'assurance d'habitation, les sinistres, le coût de sinistre explose. Voilà. Et donc, effectivement, il vaut mieux payer la prévention au début que payer après la douleur au risque parce que vous avez inondé cet étage.
Bah merci pour ce témoignage, Alexander. Si vous l'avez pas fait, allez-y, faites vérifier que tout va bien avant que ce soit trop tard. Surtout que bon, les fêtes de fin d'année arrivent, ça serait quand même sacrément dommage d'avoir une fuite ou une panne de chaudière pour le réveillon de Noël. Merci beaucoup, Alexander Gouchine, président et fondateur de Medepanneur.fr. Allez, c'est l'heure du débat.
Les experts de l'IMO, le débat.
Et à mes côtés, comme très souvent, j'allais dire presque trop souvent, mais il faut dire que la fiscalité, elle change tellement souvent que j'ai besoin de vos lumières, moi. Stéphane Descartiès, des conseillers formation. Bonjour Stéphane.
Bonjour Marie, bonjour à tous.
Et Jean-Pascal Michaud, avocat fiscaliste chez LMD Avocat. Bonjour Jean-Pascal.
Bonjour, bonjour à tous.
Oui, je sais, on vous voit souvent, mais on a besoin de vous, messieurs, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, on va pas se mentir, il y a encore pas mal de sujets qui sont dans l'incertitude. Bon, on va venir sur nos débats budgétaires, on va rentrer direct dedans. Sur une certitude, un des textes qui a quand même été voté, il faut le dire, c'est le projet de loi de finances pour la sécurité sociale. Sur le papier, on n'a pas l'impression comme ça, ça ne devrait pas concerner l'immobilier. Mais si, ça concerne aussi l'immobilier via la hausse de la CSG. Alors, plus de peur que de mal ou ça va piquer quand même, messieurs ?
Ben, c'est quand même une augmentation, effectivement, pour les revenus en meublé. Hein, puisque
parce que normalement, ils avaient exclu les revenus fonciers.
Voilà, les revenus fonciers, donc location nue ou locaux commerciaux, etc. Enfin, revenus fonciers en général, donc on reste avec les prélèvements sociaux à 17,2. Mais pour le meublé, un nouveau coup, effectivement, de poignard dans le dos du meublé, entre guillemets. Donc pour le meublé, c'est une activité commerciale. Donc là, les prélèvements sociaux passent de 17,2 à 18,6. Donc bah c'est pas vraiment une bonne nouvelle effectivement. Donc alors on verra hein, le parcours va être encore long.
Non, pour le projet de loi de finances de la Sécu a priori c'est bon ça, c'est plié les gars. Oui, non, non, alors par contre, vous dites pour les revenus c'est commerciaux mais en même temps le statut du loueur meublé non professionnel quelque part, il peut pas bénéficier.
Non, c'est du BIC hein. Donc effectivement
Jean-Pascal, il me regarde quand même pour lui, ça se tente, ça se plaide.
Non, vous avez une distinction, c'est-à-dire que le but c'est de frapper les revenus du patrimoine, donc ça va frapper les non-professionnels, ça va pas frapper les professionnels qui sont pas soumis au même régime de cotisation sociale. Mais une question qui se pose souvent, c'est est-ce qu'on passe en professionnel quand on est loueur en meublé ?
Ouais.
Et donc l'arbitrage est pas toujours évident, et ça va être un arbitrage en faveur du professionnel, donc ça ouvre quand même la voie à certaines discussions, même si c'est bien sûr pas une bonne nouvelle pour les loueurs meublés non professionnels.
Mais ça fait votre boulot, vous, Jean-Pascal. On va... Bon, ça, c'est entre guillemets la seule chose dont on est certain, plus ou moins, c'est ce projet de loi de finances de la sécurité sociale. On va se plonger dans le projet de loi de finances de l'État, qui a priori est mal barré, mais bon, on va quand même en parler parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont jouées ces dernières semaines dans les discussions budgétaires. La première d'entre elles, quand on parle immobilier, c'est forcément le statut du bailleur, alors j'allais dire le statut du bailleur privé puisque c'était son nom, mais évidemment là-dessus Stéphane a toujours un joli mot, ce n'est pas selon vous le statut du bailleur privé mais le statut du bailleur social.
Oui c'est ça, on attendait avec beaucoup d'espoir quand même, puisque alors je ne vais pas refaire tout le sketch mais ça fait 10 ans qu'on parle d'un statut en quelque sorte pour reconnaître le côté entrepreneur, le côté effectivement bailleur privé qui doit apporter son lot de logements privés parce que le logement social ne peut pas tout faire. Donc on attendait depuis longtemps le statut du bailleur privé et on a eu effectivement le statut du bailleur social puisqu'effectivement les plafonds de loyer notamment sont bas, sont très bas, ils sont beaucoup plus bas notamment qu'en Pinel. Donc en fait la proposition qui est faite c'est vous achetez du neuf ou de l'ancien rénové donc à grands frais, donc globalement, vous achetez 30% de plus que le marché. Et notamment, si vous êtes en loyer libre dans le neuf, vous dites, bah, c'est du neuf, c'est bien, il y a du parking, il y a des extérieurs. Donc, vous pouvez louer 10, 15, 20% de plus que le marché. On vous propose, alors que vous pourriez louer plus que le marché, on vous propose de louer 30% moins cher que le marché. Donc, vous achetez.
Ouais, c'est même pas les mêmes plafonds, c'est ce que vous disiez, c'est même pas les mêmes plafonds de loyer qu'il y avait sur feu le dispositif.
Non, tout à fait. Donc, vous achetez plus 30%. et il faut louer moins 30. Donc ben là, il s'agit pas de il y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique ou maths sup pour se rendre compte que ben il y a pas de rendement. Ouais. Le rendement brut est médiocre.
Il est même donc, moins que rien.
Il est même effectivement moins que rien. Alors la contrepartie, c'est qu'avec ce fameux statut, vous avez des amortissements qui vous permettent moins d'impôts. Mais attention, qui vous permettent moins d'impôts.
Sur
si
les
vous
revenus,
ne revendez jamais.
Et sur les revenus fonciers uniquement, pas sur les revenus globaux. Hein, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas... Voilà, c'est...
On ne peut pas reporter ces déficits comme on peut le faire en déficit foncier ou avec feu périssol. On ne peut pas reporter sur les autres revenus. Donc ça ne sert qu'à absorber donc, des futurs revenus fonciers. Mais encore une fois, ces économies d'impôts, elles vous sont accordées provisoirement.
Ouais.
Parce que si vous revendez à 12 ans, à 15 ans, vous êtes rattrapé par la plus-value, puisque les amortissements que vous avez obtenus, donc il faut les rembourser, les sortir de l'assiette du calcul de plus-value, enfin bref. Donc, une rentabilité médiocre, des économies d'impôts qui vous sont prêtées et qu'il faut rendre, si vous avez un problème en cours de route, qu'il faut vendre, etc., machin. Donc, aucun intérêt, ça n'intéressera aucun bailleur privé. C'est un peu désespérant parce qu'effectivement, le marché est bloqué depuis des mois parce que les investisseurs attendent.
Mais
ils se disent, on leur promet monts et merveilles,
ouais,
donc
ça.
Ils attendent. Donc aujourd'hui, le marché, il est collé, il ne se passe rien, tout le monde attend. On a ce truc-là qui n'a aucun intérêt. Top Invest a fait les simulations, on fait moins bien que le livret A. Ils ont quand même réussi la performance à faire en sorte qu'on fasse moins bien que du régime
oui,
commun.
Oui, que du... Ouais, ouais. Mais cette coquille vide, on vous en parle aussi, Jean-Pascal. Vous en avez des gens qui se disaient, tiens, je vais peut-être réinvestir avec ce statut machin.
Alors, il y avait des gens qui étaient dans l'attente, mais effectivement, personne ne va y aller. Hein. Personne ne va y aller. Ouais. Comme je le dis souvent, on ne fait pas une mauvaise affaire pour des raisons fiscales. Voilà, ouais. On ne va pas aller chercher un petit amortissement en foulant un bien et en perdant de l'argent.
Ouais.
Ça ne sert à rien.
C'est dingue hein, quand même hein, qu'on en arrive là. Hein.
Ouais, c'est surtout. Enfin, il y a deux hypothèses. Soit les sénateurs, les députés ne savent pas compter, soit ils pensent que les Français ne savent pas compter. Ou alors peut-être les deux.
Sans doute.
Mais effectivement.
Après, on rappelle que l'idée de base, elle était quand même meilleure, hein, qu'elle a été amendée, suramendée et sous-amendée, quoi.
Oui, oui, hein non. Alors, la première version, Cosson, etc., était
le rapport
plutôt,
qui avait été fait sur le sujet.
Était effectivement favorable, mais il a tellement été taillé, retaillé, et effectivement, aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt. Donc, mais ce qui est surtout, effectivement, très grave, c'est que le marché attendait un nouveau souffle. Avec ce statut,
et qu'il l'aura pas.
Clairement, il l'aura pas.
Et qu'il l'aura pas.
Là, clairement, il l'aura pas.
On continue d'éplucher ce petit budget de l'État là, quand même, avec un impôt sur la fortune improductive. Alors, verra-t-il le jour ? C'est le sujet, parce qu'il a été ajouté. Hein, par ailleurs, il n'était pas dans la version initiale telle que présentée par le gouvernement. Mais enfin, c'était peut-être la seule bonne nouvelle, et je mets d'énormes guillemets, hein, concernant l'immobilier dans ce projet de loi de finances.
Oui. Oui, c'était la seule bonne nouvelle, on peut le dire. C'est pas terminé, on va voir. Mais effectivement, entre le rejet à l'Assemblée, le Sénat qui modifie le texte, qui modifie les plafonds, tout ça va revenir en commission paritaire. Je sais pas trop quoi vous en dire, hein, si ce n'est qu'il est urgent d'attendre. Mais j'ai bien peur qu'il se passe pas grand chose. Si ce n'est cette idée de fond quand même qu'on arrête de mettre l'immobilier comme la seule, le seul investissement qu'on vient de sanctionner.
Oui, c'est ça, c'est qu'on passerait quand même de cet IFI, cet impôt sur la fortune immobilière, à un nouvel IFI, un impôt sur la fortune improductive, et qui en plus serait un peu plus favorable à l'immobilier, ouais. Puisqu'il y aurait un abattement d'1 million d'euros, c'est ça de mémoire.
Donc, il reste une idée de progrès. Maintenant, est-ce que ça va passer ? J'ai de plus en plus de doutes.
On continue à éplucher.
Oui, ce qui avait été effectivement voté par les sénateurs, c'est de sortir l'immobilier locatif.
En plus, ouais, ça aurait été une bonne idée.
Avec un plafond plus haut, je crois, 2,5 millions et quelques, et puis surtout sortir l'immobilier locatif du calcul de ce nouvel impôt, ce qui ne serait que justice quand même, parce que on peut comprendre que sur un magnifique appartement ou une maison somptueuse ou une résidence secondaire, là aussi magnifique, on peut comprendre que ben voilà, il y a une taxe, mais sur un bien que vous louez, que vous offrez à la location à des jeunes couples, à des étudiants, de vous pénaliser parce que vous offrez avec les problèmes de logement qu'on a, de vous pénaliser, de vous mettre un impôt supplémentaire, une super taxe foncière parce que vous offrez un logement à la location, qui peut trouver sa juste, alors que sur vos tiotes ou sur effectivement vos portefeuilles boursiers de dizaines de millions d'euros, vous n'avez pas d'impôt, et sur un bien que vous offrez à la location à un jeune couple, vous avez un impôt. C'est incompréhensible et c'est parfaitement injuste.
Vu qu'il a parlé des yachts, forcément ça m'envoie sur la taxe sur les holdings, parce que c'est vrai qu'il y avait un autre sujet aussi au sein de notre projet de loi de finances. La taxe sur les holdings, pas uniquement sur les yachts, bijoux et chevaux qui seraient détenus par les sociétés, mais aussi sur les logements, résidences qui sont mis à disposition de la personne physique qui est rattachée à cette société, en fait.
Oui, alors là, la taxe sur les holdings, premier problème, effectivement, c'est que pour le coup, c'est dans le projet initial du gouvernement.
Oui, c'est que là, a priori, ça ne va pas disparaître. Quoi.
Donc, si on a un 49.3, par exemple, ça y va. Et les seuils qui ont été placés, 5 millions d'euros, mais pas parce que vous détenez 5 millions d'euros, parce que vous avez des parts dans une société qui a un patrimoine de 5 millions d'euros. Donc, ouais, ça va très très vite. Si vous en avez 2%, vous êtes dedans. Hein.
Ouais, ouais.
Donc, ça représente rien. Et effectivement, l'immobilier est dedans. Et donc ça, c'est effectivement une taxation, notamment de biens immobiliers qui sont mis à disposition des associés. Donc là, oui, c'est une vraie atteinte à l'immobilier, alors que c'était censé s'attaquer aux super riches qui ont plus de 100 millions d'euros.
C'est pour ça que je notais les yachts, les bijoux, les chevaux. Enfin, il y avait au départ, voilà, c'était parti quand même sur.
Ouais. Et finalement, on va taxer des propriétaires moyens, voire des petits propriétaires une fois de plus. Donc c'est totalement le contraire de ce qui était prévu.
Voilà, je vous avais dit qu'il allait avoir à boire et à manger dans les sujets qu'on allait aborder. À chaque fois, on va faire une mauvaise nouvelle, une moins mauvaise nouvelle. Vous avez dit, j'ai pas dit bonne nouvelle. La moins mauvaise nouvelle, les durées de détention. Quand même. Bon, on a deux sujets sur résidence principale et autres, donc résidence secondaire ou investissement locatif. Ça peut bouger. Alors, ça s'est passé par voie d'amendement parlementaire, donc ça, c'est pas dit que ça reste, mais enfin, quand même. Donc, qu'est-ce qui se passe sur les résidences principales, peut-être l'année prochaine, en termes de fiscalité sur la plus-value, messieurs?
Alors, à ce que j'ai compris, il y aurait effectivement une éventualité de payer de la plus-value si on vend sa résidence principale avant 5 ans, mais c'est assorti, comme toujours, de tout un tas de cas de force majeure, donc divorce, mutation, perte d'emploi, etc. Donc, qui est-ce que ça va concerner? Bah, uniquement peut-être les gens qui faisaient les faux marchands de biens, entre guillemets, c'est-à-dire qui achetaient, qui rénovaient, qui faisaient semblant d'habiter dedans ou qui habitaient dedans quelques jours, qui se domiciliaient, puis ensuite vendaient avec une plus-value, vendaient avec une plus-value,
ouais,
mais sans être
taxés. Ouais, c'est ça,
taxé.
Et sans être taxés.
Donc ça va, qui est-ce que ça va concerner?
Non, mais c'est important de le dire, Stéphane. Voilà. Jean-Pascal, je m'entends là, parce qu'il y a eu quand même des gens qui ont dit, oh mon Dieu, ça y est, ils s'attaquent à la fiscalité sur les plus-values sur les résidences principales. En réalité, ça va concerner deux pelés et trois tondus, parce que typiquement, si vous vendez pour racheter une autre résidence principale, a priori, vous n'êtes même pas concerné. Mais est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens, Jean-Pascal, qui font les faux marchands de biens?
Non. Alors, moi ce que je pourrais reprocher, c'est toujours pareil, on ouvre une brèche, on fait tomber un principe,
ouais,
la résidence principale. Maintenant, il faut l'occuper 5 ans et demain, on pourra encore durcir les conditions. Voilà, c'est ce qui ne me plaît pas. C'est vrai qu'en l'état actuel du texte, les seules personnes qui vont être concernées, puisque même quand vous rachetez une nouvelle résidence principale, c'est bon. Hein. Donc, les seules personnes qui vont être concernées, ce sont des gens qui faisaient des coups, qui achetaient un bien pourri, qui avaient un peu de goût et des moyens, qui en faisaient quelque chose de top et qui le revendaient beaucoup plus cher un ou deux ans plus tard. Et ils pouvaient faire ce coup-là plusieurs fois à la suite et ça restait une des merveilleuses optimisations fiscales possible en
France.
Vous
en avez vu, Jean-Pascal ?
Bien sûr, j'en ai vu faire des coups magnifiques et même faire fortune comme ça en 3-4 opérations immobilières sur 15 ans. Mais même cela, j'ai envie de dire, la plupart du temps, ils gardaient le bien plusieurs années, au moins 3 ou 4 ans, et s'ils avaient dû le garder 5, ils n'auraient pas changé grand-chose. Donc je pense que ce texte n'est pas forcément mauvais, mais il n'est pas nécessaire. Il ne va pas changer grand-chose, ni pour les uns, ni pour les autres, à quelques exceptions près.
Là, on est sur la résidence principale. En revanche, a priori, c'est bon à prendre pour les autres, c'est-à-dire résidence secondaire et investissement locatif. Là, on va réduire la durée de détention minimale pour être totalement exonéré d'impôt sur la plus-value. C'est à peu près ça l'idée ?
Oui, non.
Ah, non. Alors, Jean-Pascal me dit que non. Alors, je vous avais dit que ce n'était pas des très bonnes nouvelles.
Alors oui, ça va dans le bon sens. C'est une réduction de 5 ans de la durée de détention pour l'exonération d'impôt sur le revenu de 22 à 17 ans. Voilà.
D'accord.
17 ans, ça reste long. Mais surtout, le problème, c'est que l'exonération de contribution sociale, qui était 30 ans, elle reste sur 30 ans.
Donc, en fait, ah oui, la donc durée on n'est pas pour... totalement,
et voilà,
en fait.
La durée pour être exonéré complètement ne change pas. C'est toujours 30 ans. Ils auraient pu au moins le faire en parallèle, passer de 22 à 17 et de 30 à 25, déjà, et idéalement aligné, ça aurait été encore mieux. Mais voilà, ils n'ont pas pu faire quelque chose de simple, c'était déjà compliqué, ils l'ont compliqué un petit peu plus, mais oui, le mouvement va quand même dans le bon sens.
Oui, alors, et surtout, d'après ce que j'ai lu, mais je ne sais pas si tout a été retenu ou si tout va passer, il y aurait, par contre, en échange de cette baisse, donc à 17 ans, notamment pour le 19%, il y aurait une baisse du montant de l'impôt, C'est-à-dire le 19% passerait à 9. Et les prélèvements sociaux passeraient de 17,2 à 6.
Ah bah c'est bien finalement.
En revanche, attention, il y aurait plus de décote. Il y aurait plus de décote pour année de détention. Il y aurait simplement un coefficient qui serait de l'inflation. Donc il peut
potentiellement. C'est bien complexe quand même. Pardon, mais si vous m'avez pas... perdu. Hein, non, mais...
Comme je le dis à mes élèves à longueur de journée, si c'est pas compliqué, c'est pas français.
Oui, et puis c'est ça, voilà. C'est ça.
En France, il faut que ce soit compliqué. C'est simple, après les gens comprennent. Et donc, du coup.
Ah, mais moi, je mets. On parlait du statut du bailleur privé, je mets au défi chacun d'entre vous d'aller sur une chaîne de très grande écoute et d'essayer d'expliquer le système d'amortissement. Franchement, bienvenue, quoi. Mais c'est ça aussi le sujet. Comment finalement faire des économies, proposer un dispositif qu'on ne comprend pas, comme ça, dont personne ne se saisit. Et ça ne coûte à rien à personne.
Et on se demande parfois si on souhaite pas laisser les gens dans l'ignorance, parce que du coup, dans l'ignorance, on fait rien, donc on va pas chercher les avantages, etc.
Mais l'imbécile heureux, alors. Bon, puisqu'on parlait quand même, on n'en parlait pas du tout, mais j'ai quand même envie d'en parler. Donation, quand même, une bonne nouvelle. Là, pour le coup, vous allez pas me dire que c'est pas une bonne nouvelle, pour ceux qui en ont les moyens, évidemment. Mais enfin, dans ce projet de loi de finances, on a aussi cette idée d'élargir à l'ancien la capacité des parents, grands-parents, machin, à faire une donation pour aider les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants à acquérir leur premier logement. C'est quand même pas mal, non ?
Oui, alors pour le coup, ça c'est très bien.
100 000 euros, c'est ça ?
Oui, c'est très bien. Surtout que quand vous allez donner à vos enfants, à vos petits-enfants, c'est que c'est pour un premier achat. Donc, ils n'ont pas des moyens énormes. Et les obliger à aller dans le neuf, qui par définition est plus cher, c'était un petit peu quand même se moquer du monde. Donc, l'élargissement à l'ancien, il est de bon sens. Et c'est une bonne chose qu'il soit prévu.
Bon,
oui, c'est très bien si c'était validé.
C'est déjà ça. Avant que, parce que Jean-Pascal a deux alertes à nous donner sur la fin de l'année, avant qu'on y vienne là pour boucler la boucle de notre projet de loi de finances, etc., juste le bon conseil.
Oui.
Que vous vouliez donner quand même à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, parce que là, effectivement, forcément, moi, je suis arrivée avec des mauvaises nouvelles, des moins mauvaises nouvelles et une moyenne bonne nouvelle. Est-ce que c'est encore le moment d'aller sur l'immobilier, quoi, clairement ?
Oui, à toute chose, malheur est bon. Effectivement, le marché de l'immobilier, il est reparti. Il est reparti pour les acheteurs de résidence principale, faut être clair. Donc, le marché, il est reparti à partir du grand T2, du T3, du T4 et au-delà. Là, c'est reparti, on va faire plus de 900 000 ventes dans l'année, c'est correct. En revanche, avec tout ce qu'on vient de se dire, avec les bonnes nouvelles qu'on attendait et qui n'arrivent pas. Les nouvelles sont mauvaises d'où qu'elles viennent, comme disait le chanteur.
Déjeuner en paix.
Helvète, Stéphane Descher. Donc, cet ensemble de mauvaises nouvelles et de bonnes nouvelles qui n'arrivent pas fait que le marché d'investisseurs, il est collé. Aujourd'hui, le studio, le petit T2, l'immeuble de rapport, le marché est extrêmement difficile. Il est mou, c'est mou, c'est très mou.
Donc, on va avoir des baisses de prix, donc il faut acheter.
Spécialement sur les biens avec défaut. Aujourd'hui, il y a du choix. Donc, le rez-de-chaussée est un peu sombre, le 6e sans ascenseur. Il n'y a pas de visite, il n'y a pas d'offre, le marché est collé. Et il y a une règle aussi en immobilier, c'est qu'il n'y a pas de mauvais prix, il n'y a pas de mauvais produits, il y a des mauvais prix. Donc les prix commencent à craquer sur les biens avec défaut, y compris dans les zones tendues, parce qu'effectivement le marché est complètement flat. Donc le temps est venu des bonnes affaires. Pour ceux qui sont opportunistes, pour ceux qui ont le courage, entre guillemets, d'aller notamment sur des biens avec défaut, et aujourd'hui, un rez-de-chaussée, un 6e sans ascenseur, sur les zones tendues, vous louez pareil, ça fait la queue dans la rue. Donc, il y a possibilité d'aller acheter sur des biens typés investisseurs, d'aller chercher du -20, -30% dès qu'un bien a de défaut. Et donc là, vous retrouvez un peu de rentabilité, parce que là, pour le coup, vous achetez beaucoup moins cher. Donc, c'est le temps des opportunistes. Moi, je le vois notamment parce que les professionnels reviennent.
Ouais.
Les professionnels qui étaient plutôt en pause reviennent. Mais les particuliers qui sont un peu naïfs, qui attendent toujours monts et merveilles, ne sont pas là.
Vous êtes là pour les conseiller, leur dire c'est peut-être le moment.
Regardez, parce que notamment sur les biens avec défaut, là, il y a des coups à faire maintenant.
Bon, ben voilà, on va déjeuner en paix avec Stéphane. Bon, je le disais, Jean-Pascal, deux petits conseils quand même. D'abord, sur les donations, puisqu'on parlait donations tout à l'heure. Attention, parce qu'il faudrait peut-être se manier avant la fin de l'année. Vous nous expliquez, il y a une espèce de système d'inscription par Internet qui pourrait faire que ce serait plus aux donateurs de payer les droits de donation, mais aux donataires, c'est ça ?
Oui, alors c'est un peu compliqué, mais si vous voulez, le principe, c'est que quand on fait un don manuel de somme d'argent, pour aider quelqu'un à acheter un bien immobilier, par exemple, en principe, on doit le déclarer à l'enregistrement, ça se fait par un formulaire papier qu'on envoie au service d'enregistrement, et l'administration fiscale va rendre la télédéclaration par Internet obligatoire à compter du 1er janvier. Bon. Ok, admettons. Le problème, c'est que quand on donne de l'argent, on peut aussi donner par une tolérance administrative le montant des droits de donation.
Pour pas que ce soit celui qui reçoit payé en même temps.
De les payer, exactement. Sauf que pour faire ça, il faut les payer, ces fameux droits de donation. C'est-à-dire qu'il faut que le donateur fasse le paiement. Or, comme c'est celui qui reçoit qui doit faire la télédéclaration et donc payer, comment va-t-il faire ou comment va-t-on faire pour que le paiement soit concomitant à la déclaration alors qu'il n'est pas fait par celui qui déclare ? J'ai peur qu'il y ait un petit problème technique.
Ouais.
Or, comme cette exonération des droits de donation payés par le donateur, c'est une tolérance administrative, eh ben, elle peut être prise du jour au lendemain.
Donc attention, si là le conseil,
décembre,
voilà, on est le combien ?
On est le 18.
Ouais.
Donc si vous avez une donation qui est dans les tuyaux.
Pour Noël.
Voilà.
Avancez un peu, quoi. C'est pas grave. C'est pas grave si vous donnez le cadeau avant Noël.
Si c'est en janvier, ça posera peut-être pas de problème, ou ça en posera peut-être.
Voilà, c'est ton jamais, mais bon, voilà, vaut mieux se protéger tant qu'on peut. Petit rappel, attention, délai de prescription sur les impôts
locaux. Bien sûr, c'est le 31 décembre, les prescriptions tombent dans un sens comme dans l'autre. Ça veut dire que l'administration fiscale va vous envoyer des petits cadeaux de Noël. Puisque les inspecteurs des impôts partent en vacances demain soir, ça veut dire que ça part aujourd'hui, demain et lundi, il y a pas mal de redressements fiscaux qui vont partir. Surveillez vos boîtes aux lettres et soyez solides dans vos têtes.
Parce que appelez Jean-Pascal.
Voilà, et appelez vos conseils si les nouvelles sont mauvaises.
Sont mauvaises d'où qu'elles viennent.
Par ailleurs, c'est aussi les derniers moments pour contester vos impôts. Et 31 décembre, par exemple, pour les impôts locaux, la taxe foncière 2024, elle sera prescrite dans 10 jours. Donc là aussi, si vous voulez contester, c'est maintenant. Réveillez-vous, après, il sera trop tard. Il ne restera que vos yeux pour pleurer.
Exactement. Réveillez-vous et après, réveillonnez, donnez et appelez Jean-Pascal. Merci à tous les deux. Alors Stéphane, j'en profite. Stéphane Descartier, je vous remonte son manuel de survie dans la jungle immobilière. Ça aussi, ça peut se trouver sous le sapin.
Oui, c'est un très bon cadeau de Noël.
Voilà, absolument. Très bon cadeau de Noël, en plus des donations qu'on fait avant le 25. Vous m'avez vu venir. Merci donc Stéphane Descartier, SD Conseil et Formation, et Jean-Pascal Michaud, l'avocat fiscaliste chez LMD Avocat. Merci d'avoir été avec nous. Évidemment, on vous retrouve très vite au mois de janvier parce que là, on l'espère, nous aurons peut-être pas un, mais deux budgets. Celui de l'État et de la Sécurité sociale, et on pourra en parler. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Les experts de l'IMO reviennent demain sur BFM Business.
Les experts de l'IMO sur BFM Business.